l'ablation et les techniques traumatisantes pour des raisons de tumeurs ou de cicatrices, de sclérose qui pourraient entraîner des crises d'épilepsie, par exemple. Encore une fois, à des fins thérapeutiques et pas à des fins qui soient exploratoires. L'observation clinique et l'étude de cas, on voit que telle personne se comporte de telle manière et on observe incidemment que son cerveau est de telle structure, qu'il lui manque tel lobe, qu'il y a tel ou tel défect qui permet de mieux comprendre les soubassements du cerveau lui-même. Et à l'enregistrement de l'activité bioélectrique, on a un petit peu parlé, me semble-t-il, la fois dernière, l'électrostimulation du cerveau, la stimulation qui peut être nécessaire pour pouvoir détailler la région dans laquelle on se trouve et l'épargner si on doit opérer tout près. La tomodensitométrie, où on en a parlé la fois dernière, tomodensitométrie par émission de positrons, imagée par résonance magnétique structurelle ou fonctionnelle. Alors, j'ai eu une question en fin de cours, je pense, la fois dernière, quelqu'un qui m'a demandé si on allait reprendre les différentes notions, parce que ça allait un petit peu vite. Et donc, je voudrais juste vous dire qu'on va reprendre les différentes notions, donc ça va un petit peu vite. Tous les chapitres vont concerner des aspects de ce que nous avons vu, le conditionnement, l'apprentissage, la mémoire, le langage, les émotions, l'attention. Il y a autant de chapitres pour aborder tous ces phénomènes-là.
Phineas T. was once an ordinary railroad foreman. He was a happy, healthy, and friendly person until a freak accident caused him irreparable brain damage. Now, Gage is remembered as a famous medical mystery. The accident that drastically changed his life and personality also changed contemporary understandings of the human brain. The horrific accident occurred in 1848 when Phineas Gage was clearing rocks from a new railroad to Manhattan. He was placing gunpowder into the cracks in rocks and then detonating them to clear them. One day, he made a mistake with his explosives. Gage forgot to cover the gunpowder he was patting down with sand. When he tried to pat the gunpowder into the rock, it exploded and launched a 3-foot-long metal pole through his skull. The projectile dragged parts of both frontal lobes along. Despite the gruesome injury, Gage was relatively unaffected by the accident. Some reports say that he convulsed for the first minute after the impact, but many believe that he never actually lost consciousness. Regardless, he was undoubtedly conscious about 1 minute after the impact. Gage sat up and actually spoke to his fellow railroad workers. When they wheeled him to a doctor, he insisted on being given his time off to continue doing his job as a foreman. While Gage's determination to continue working despite his terrible injury may seem odd, the effects of the injury were even stranger. The open brain wound healed after only 10 weeks, and Gage was able to count, sing, feed and dress himself, and make sense of information that was given to him. Some aspects of Gage never fully recovered, however. His personality was completely different. His old friends could not tolerate his newly considered attitude, inexplicable temper, and constant profanity. Soon, he was fired from his job for being nasty to co-workers, people who he had worked well with just 10 weeks before. Gage was so out of control that men kept him away from women and children because he was considered too vulgar for them. Even though he had physically healed, something was still wrong. As his doctor said, Gage was no longer Gage. 11.5 years after the accident, Gage died. Unfortunately for the medical community, no autopsy was conducted on his unique brain. Years later, his body was exhumed with permission from his family, and scientists studied his skull. They saw approximately where the rod traveled through his head, and did their best to understand the damage with their limited understanding of the brain. The case study became an essential part of the debate regarding the function of the brain in the mid-1800s. Two prominent schools of thought existed. Ironically, both used Gage as support for their theory. One group believed that the brain was connected by a vital force. Due to this vital force, any part of the brain could perform any of its functions. Therefore, someone like Gage could still think and behave like everyone else, despite having lost a large piece of his brain. The other group of brain theorists, commonly referred to as the localizers, thought that the brain had different parts that localized specific functions. They pointed out that Phineas Gage's personality was never the same after the accident. The localizers believed that the damage to the brain caused a lasting change in Gage's personality. Ultimately, both competing schools of thought were integrated into contemporary brain theory. The brain does have specific localized functions. Modern research has shown that motor functions are certainly localized to specific areas. Localizers, however, underestimated the interconnectedness of the brain. The brain has trillions of synapse connections, And many human functions, such as memory, are possible to localize to only one area in the brain. Recent studies have shed more light on Phineas Gage's specific condition. Damage to the frontal lobes has been shown to cause behavior spontaneity. Patients with frontal lobe damage often have difficulty interpreting information from their environments, taking risks, and complying with the rules. Especially with injuries that damage both lobes, a person's personality is often drastically altered. These recent studies help explain the effects of Phineas Gage's injury. Still, scientists wish to better understand Gage's disorder and the underlying brain science that could explain it.
J'ai tout compris? Ouais? Ou non? J'entends des oui, je vois des non. Je ne sais pas dire, moi. Vous avez bien tout compris? Levez un peu la main, ceux qui n'ont pas tout compris. Ah ouais. Donc vous avez eu, je vais vous réexpliquer, peut-être en français, c'est peut-être plus simple.
J'ai eu l'histoire de Phineas Gage, un homme qui travaillait au train de fer. Et puis, histoire simple d'un homme qui a eu un coup de barre.
Alors, intelligent comme il était, on fait des trous avec une barre dans des rocs pour pouvoir mettre de la poudre, puis mettre une mèche, et puis il faut que ça saute.
Regardez, il faut que ça saute. Le problème, c'est qu'il est allé voir, puisque ça ne venait pas, voir si ça prenait quand même. Et comme vous savez, on dit souvent aux enfants, quand les...
Vous avez déjà allumé des fusées ou des choses comme ça, des feux d'artifice? Non? Il ne faut pas le faire, parce que c'est dangereux. Et puis surtout, si ça ne prend pas, il ne faut certainement pas aller regarder si ça va prendre ou pas. De la même manière qu'on ne regarde pas si un pot de ketchup est encore plein. On s'expose à des accidents. En l'occurrence, lui, il s'est exposé au fait d'avoir l'expulsion de la barre à mine qui permettait de bourrer la poudre dans son
il a traversé la tête. Bon, jusque-là, ma foi, c'est pas extraordinaire comme histoire. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'est pas mort. Il a encore vécu 11 ans et demi. Et que ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'il s'est vite remis sur pied et puis qu'il a gardé son poste. Ce qui fait que tous ces dysfonctionnements ont été documentés.
Et s'en est suivi un intérêt important pour cette personne, et en particulier son médecin du travail, qui est John Harlow, qui a aussi contribué à un intérêt, avec la phrase qui se résume comme ça, « Gage was no more Gage ».
Il n'était plus lui-même, il avait changé, il était devenu plus impulsif, plus d'insultes, moins de planification, moins d'organisation, alors qu'il était lui-même quelqu'un de pondéré, etc.
Tout l'inverse. Sa personnalité avait changé. Alors, son crâne et cette barre, ainsi que la photo, sont conservés au Warren Anatomical Medical Museum à Harvard. Donc, quand vous allez à
Harvard, vous allez voir ce musée. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? C'est justement toute cette documentation qui est autour. Cette documentation qui permet d'intégrer les observations, on va appeler les observations cliniques, avec un questionnement par rapport à l'anatomie du cerveau. Alors, vous avez compris dans les deux que malheureusement, il n'y a pas eu de prélèvement de son cerveau une fois qu'il était décédé.
Bon, on n'a pas pu l'examiner. Mais il y a pu y avoir différentes analyses de son crâne avec des reconstructions, vous voyez ici, tridimensionnelles, de cette barre qui a traversé le cortex orbitofrontal et frontal médian, mais orbitofrontal gauche et médian, avec toutes les conséquences qui vont être liées à cette lésion. C'est un débat extrêmement important puisqu'il se situe à un moment de l'histoire. On est ici en 1848. Il a eu ça quand il était âgé de 25 ans. S'il était plus âgé, peut-être qu'il serait tout simplement mort.
Et puis peut-être que s'il y avait une bonne médecine du travail, on n'aurait peut-être tout simplement pas autorisé à reprendre le travail, donc il n'y aurait pas eu ces observations qui ont été faites. Donc ce sont des circonstances assez particulières qui conduisent à pouvoir faire ces observations. Et à cette époque, donc, c'est un débat, vous avez vu, entre les collectivistes et puis les tenants de la force vitale. Pour faire bref, certains pensaient que chaque région du cerveau avait la même capacité, la même propriété, et donc si vous en avez un petit peu, ben, il vous reste toujours le reste, mais vous en avez un petit peu moins. Et les localisationnistes disant autre chose, en disant mais chaque région du cerveau est différent de l'autre, a des propriétés différentes, et donc s'il y a des lésions à un endroit, il va y avoir des répercussions qui sont spécifiques. On sait aujourd'hui que ce débat entre les tenants de cette force vitale et les tenants de la question, c'est un débat un petit peu qui n'a plus vraiment lieu d'être, puisque les deux ont raison. Il y a une structuration vraiment importante du cerveau avec des régions hiérarchiques qui font que l'information provenant du monde extérieur et se mettant dans le cerveau va être codée à différents endroits. Il y a des cartes pour le son, on dit des cartes de tonotopie pour le lieu, topos, donc c'est des cartes topographiques. Là, c'est la tonotopie. Il y a comme ça des cartes pour plein de choses, que ce soit la vision, que ce soit la, comment dire, la motricité, les sensations, etc., etc. Donc, des régions ont ont une subdivision en lieux d'importance, et les localisationnistes avaient donc raison. On sait par ailleurs que le cerveau est constitué d'un certain nombre de neurones qui sont interconnectés. Il y aurait 10 milliards de neurones avec plein de cellules gliales, avec plein de dendrites par neurone. Et donc, il y aurait vraiment un réseau interconnecté où on peut difficilement imaginer, et puis c'est montré au niveau scientifique, qu'il n'y a pas d'interaction. Il y a des interactions dans ces différentes parties de réseau. On parle même de différents réseaux. Le réseau par défaut, ou default mode network, ou le réseau attentionnel, le réseau moteur, le réseau de la salience, le réseau, tous des réseaux au niveau cérébral qui permettent de comprendre que ces tenants de la force vitale avaient bien raison. Donc, cette histoire de Gage nous montre que cet aspect anatomico-fonctionnel est absolument important. Alors, ça nous apprend aussi beaucoup sur ce qu'on va retrouver dans les aspects de contact, de lien, qui vont être évalués par la psychologie et, grosso modo, qu'on va lier à certains traits de caractère ou de personnalité dans le langage commun. Entre autres, la motivation, le raisonnement et le jugement ont été atteints chez Phineas Gage. Trois fonctions en lien avec le cortex frontal altéré. Alors ici, vous avez des définitions qu'il faut retenir. Ceux qui parlent un petit peu grec seront facilités, puisque la définition se trouve dans le mot. Abouli, alpha privative, bouleimi, l'absence de volonté, alexithymi, incapacité à exprimer les émotions, le masque d'expression des fantasmes. Donc c'est précisément l'absence de lexique concernant l'humeur chez un individu. L'anédonie, c'est la perte du goût et de la sensibilité au plaisir. L'anosognosie, c'est la perte de conscience de la maladie. L'anosodiaphorie, c'est l'absence de réaction affective au déficit lié à la maladie. Vous avez une maladie, vous n'y réagissez pas et ça s'appelle tout simplement la nosodiaphorie. La mimie, l'absence d'expression faciale des émotions. Vous connaissez le mot mimique. La mimie, c'est l'absence d'expression faciale des émotions.
le syndrome amotivationnel, bien connu de ceux qui fument du cannabis et du THC en particulier, perte de la motivation à l'action et à la réflexion. Bien malheureusement, c'est souvent les autres qui le remarquent et pas l'individu qui consomme. L'apathie, l'incapacité d'être ému ou agir ou d'agir. La pragmatisme, c'est l'incapacité de réaliser une action. La timormie, c'est le syndrome clinique associant perte de l'affect et de l'élan vital, souvent associé dans la littérature à la psychose, mais qui peut se voir dans d'autres troubles, entamant gravement l'être, tout simplement. Tous ces alpha privatifs, toutes ces définitions reflètent des altérations du cortex frontal. Une altération du contexte du cortex frontal va donner une anhédonie, une alexithymie, une aboulie, une namimie, un syndrome amotivationnel. Ainsi, il s'agira de ne pas se laisser tromper pour le clinicien ou pour la personne qui étudie la psychologie, mais dans le fond, est-ce que c'est bien psychologique ceci ? Est-ce que c'est bien un symptôme psychique ? Ou est-ce que c'est un syndrome physique, puisque c'est l'expression psychique d'un trouble structurel au niveau du cortex frontal. D'où la notion de ces diagnostics différentiels en lien également avec une altération du cortex frontal. Pseudo ici voulant dire qui imite la pseudo-habileté professionnelle, le maintien d'une activité automatique, la sclérose du comportement, des erreurs grossières non reconnues. Bon, vous avez toute une série de métiers plutôt manuels où des erreurs grossières vont être non reconnues, elles vont être comblées par l'action d'une autre personne qui passe après, ou ce qui est demandé à l'individu qui travaille est suffisamment léger ou limité pour que puissent se développer des troubles n'entamant pas la tâche qu'il doit réaliser. Pseudo-dépressif, apathique, apragmatique, avec un syndrome amotivationnel, s'agit-il d'un trouble dépressif entre guillemets vrai, idiopathique, ou d'un trouble dépressif qui est reflété par un déficit au niveau frontal, que ce soit un vieillissement, une consommation toxique, une sarcoïdose, une tumeur, ou que sais-je encore. Donc, ou encore, que ce soit une symptomatologie liée à la consommation de substances, comme le cannabis. Pseudomaniaque, jeu de mots, grossièreté, mégalomanie, absence de logorée, pour être patho ou gnomonique de cette pseudo-manie.
Il s'agit donc d'un trouble qui imite le trouble bipolaire ou le trouble maniaque, mais qui signe plus une désinhibition, avec une absence, la logorée étant la diarrhée verbale. Vous connaissez diarrhée et logorrhée, c'est quand le logos, le verbe, coule beaucoup.
Donc quand les gens parlent vraiment, c'est pas souvent dans un trouble, les gens sont hypertimiques, voire hypomane, voire maniaque.
Pseudo-troubles de personnalité, donc c'est en fait des troubles caractériels nouveaux. Cet aspect de nouveauté est à mettre en lien avec une lésion éventuelle. Violence, colère, impulsivité sur fond d'apragmatisme, troubles sexuels, troubles compulsifs. Donc vous voyez que tous ces troubles ne doivent pas forcément être pris
pour argent comptant. Ça fait partie de sa personnalité.
Il a toujours collectionné je ne sais pas quoi, vous pouvez imaginer. Et puis, en fait, il y a un problème frontal. Donc, le médecin, là, il doit faire un diagnostic différentiel, un examen du cortex, et voir qu'il n'y ait pas de trouble au niveau du cortex frontal. Pas à chaque fois. Mais s'il y a un changement dramatique, il faudra peut-être le refaire. Pseudo-hystérique, troubles sexuels, crise motrice, spectaculaire, perturbation de la vigilance, pseudo-délinquance, vol stupide, dénudation, exhibition, masturbation en public, violence brusque sur un inconnu. Bon, c'est répréhensible par la loi, tous ces comportements-là. Et d'un point de vue de la santé publique, il faudra tenir compte qu'un individu commettant ce genre d'acte, non seulement il faut protéger la société, mais il faut se poser la question, après cet individu est dans son état normal, ne faut-il pas se questionner sur l'intégrité de son cortex frontal ? Ne devrait-il pas être examiné par un médecin afin de déterminer si cette expression comportementale et psychique d'un trouble somatique sous-jacent, voir si cela peut expliquer ce que l'on observe. Pseudo-collectionneur, un collectionnisme dérisoire et accumulatif, pseudo-obsessionnel compulsif, des stéréotypies, des phrases et des gestes répétitifs, une négligence corporelle, un syndrome de Diogène, vous connaissez Diogène dans son tonneau, mais ici c'est accumulant toute une série de crasses jusqu'à ne plus pouvoir circuler dans sa maison. Donc c'est ce que les anglo-saxons nomment le hoarding disorder ou le syndrome d'accumulation. Alors le système nerveux, c'est quoi ? C'est un ensemble d'organes dont la fonction est la réception d'informations, l'intégration d'informations et l'action. Il comprend les nerfs, la moelle épinière et le cerveau, son unité de base et le neurone. Vous avez déjà eu des cours sur le système nerveux central ou pas ? Levez un peu la main si vous avez déjà eu des cours là-dessus. Tout le monde, je fais vite un rappel alors. Neurones, c'est le système nerveux dont la fonction est la communication. L'humain a 86 et 100 milliards de neurones. Bon. L'influx nerveux, transmission de messages, cellule gliale. Cellule de soutien des neurones, cellule colle, oui. Alors, elles nourrissent les neurones, facilitent leur connexion et détruisent les résidus. Hein, on peut, dans l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, si on inactive les cellules gliales, on voit que le signal paramétrique, la modification de l'hémoglobine oxygénée en hémoglobine désoxygénée, vous l'expliquez, ça va pas derrière, ne va pas être visible. C'est ainsi, c'est pas juste le neurone isolé qui fonctionne, mais c'est le neurone plus sa cellule gliale. Dendrite, hein, dendrone, l'arbre. Structure du neurone qui capte les influx nerveux transmis par d'autres neurones, le corps cellulaire, noyau, axone, nerf, c'est toute la nomenclature qui va désigner le tissu nerveux. Les gaines de myéline, hein, qui vont permettre des sauts, des potentiels d'action de nœud en nœud, hein, les nœuds de Ranvier. L'espace entre deux gaines de myéline sur l'axone et qui permet une accélération de l'information. Sans myéline, on est à 10 mètres par seconde. Avec myéline, donc cellule gliale, nous sommes à 100 mètres par seconde environ. Il y a donc un intérêt clair d'avoir une information qui peut voyager plus rapidement, dans certains cas, hein, tout simplement. Transmission de l'influx nerveux. L'influx nerveux circule de manière électrochimique. L'impulsion est électrique à l'intérieur du neurone. L'impulsion est chimique d'un neurone à l'autre. Ça, vous connaissez, les nerfs. Potentiel de repos, c'est l'état inactif du neurone lorsque l'influx nerveux n'y circule pas. Les potentiels d'action, je viens d'en parler, avec la dépolarisation de membrane. Ici, c'est la géographie de la synapse. Vous avez tout ce qui concerne la synapse. Le présynaptique, pardon, la synapse ici, et puis le postsynaptique juste ici. La transmission chimique, ça se passe au niveau de la synapse avec une sécrétion, une récupération des neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont des messagers chimiques qui vont mettre un neurone en communication avec un autre neurone, un muscle ou une glande. Alors, il y a des émetteurs et des récepteurs. On voit mieux ici l'arrivée du message nerveux et l'excrétion, la récupération éventuelle et l'action sur des récepteurs pour des messages postsynaptiques. Au niveau des récepteurs, vous avez déjà eu des cours sur les différentes formes d'agonistes, antagonistes, etc. Oui, non ? Oui, c'est très clair, non ? L'activation normale du neurotransmetteur, l'activation bloquée, les agonistes imitant l'action du neurotransmetteur, les substances agonistes stoppant, et vous avez en plus de ça des agonistes partiels qui vont éviter de manière partielle, mais bloquer un certain pourcentage, les récepteurs. Vous avez différents neurotransmetteurs, vous les connaissez bien, ainsi que leur fonction, vous avez déjà vu ça ou pas? Oui, non? En partie, l'acétylcholine, alors, qui intervient dans l'activité musculaire, le fonctionnement cognitif, la mémoire, le sommeil, le soleil a mouvement oculaire rapide ou sommeil paradoxal, les émotions, donc toute une série de rôles, et on sait que la diminution de l'acétylcholine peut entraîner des troubles mnésiques, entre autres, au niveau de l'hippocampe. Des molécules qui sont des anticholinergiques qui sont prescrites entre autres pour diminuer les effets secondaires de certains neuroleptiques, en tout cas qui étaient prescrites dans ce contexte-là, vont avoir un impact sur la mémoire. La sérotonine, elle, intervient dans le contrôle de l'humeur, du sommeil, de l'appétit, de la perception sensorielle, de la température du corps, de la douleur, de l'impulsivité. De faibles taux peuvent être associés à la dépression, raison pour laquelle des médicaments sérotoninergiques peuvent être prescrits dans ce cas-là. La dopamine intervient, elle, dans le mouvement, l'attention, la mémoire, l'apprentissage, les émotions. Trop de dopamine, surtout dans le circuit mésolimbique, est associée à la psychose, la schizophrénie, l'insuffisance dans la partie nigrostriée est associée à la maladie dite de Parkinson. La dopamine joue également un rôle dans la dépendance et la gratification dans ce fameux circuit qu'on appelle le circuit de la récompense. La noradrénaline ou norépinéphrine va intervenir dans l'apprentissage et surtout l'apprentissage nouveau. Il va avoir un lien entre ce qui est appris, nouvellement appris, et les sécrétions de noradrénaline. Elle va jouer également dans la mémoire, dans le rêve, les émotions, le réveil. Alors, le comportement alimentaire, la vigilance, et on sait qu'il y a une courbe en U inversée entre cette vigilance et ce taux de d'adrénaline. À savoir, s'il y a trop d'adrénaline, il va y avoir trop d'agitation chez un individu, et s'il y a trop peu, trop faible activité, une trop faible vigilance, et donc il y a besoin d'un tonus qui soit adapté à cette activité, à cette fonctionnalité. L'adrénaline intervient dans le contrôle de la stimulation émotionnelle, de la mémoire, du métabolisme du glucose. Alors, l'acide GABA, médiateur chimique qui va être présent dans beaucoup d'endroits du système nerveux central, et les benzodiazépines, comme le diazépam ou le valium, vont augmenter les effets inhibiteurs de ce GABA sur certains sous-récepteurs et par conséquent diminuer l'anxiété. Les endorphines vont être sécrétées de manière spontanée par l'individu. Hein, c'est des endorphines intrinsèques qui vont être sécrétées dans le cadre d'une douleur, hein, par exemple, mais qui peuvent être amenés par la prise de substances comme l'héroïne, la morphine ou l'oxycodone, qui sont des traitements antidouleurs. Elles vont jouer un rôle dans le contrôle de l'humeur, de la douleur, de la mémoire et de l'apprentissage. À connaître donc. Je vais vous parler maintenant des systèmes neuromodulateurs diffus. On sait qu'il y a différents neuromodulateurs et ils sont diffus pourquoi ? Dopamine, sérotonine, noradrénaline, acétylcholine. Ils ont un lieu de naissance environ au niveau du tronc. Dopamine pour la substance noire et l'aire tegmentale ventrale, entre autres. Les noyaux du raphée pour la sérotonine, le locus ceruleus pour la noradrénaline, et le cerveau antérieur basal et le tronc cérébral pour l'acétylcholine. Ils sont diffus, vous voyez qu'ils agissent à travers tout le cerveau. Je ne vais pas revenir sur les différentes fonctionnalités que je viens de vous citer. De multiples noyaux sérotoninergiques, appelés les noyaux du raphée, qui vont être impliqués, entre autres, dans ce qu'on appelle la réticulée activatrice ascendante, va filtrer l'information venant de l'extérieur vers l'intérieur et sélectionner ainsi des informations pertinentes. Ça peut être lié aussi à ce que vous allez percevoir dans votre environnement comme étant important ou pas important dans cette filtration d'informations. Ça, je l'ai déjà cité, je vous montre la carte, comme ça vous voyez d'où naissent ces neurones. Et pour la dopamine, vous avez ici une présentation de deux voies, là, une voie punigrostriée et une voie qui serait mésofrontale. Alors, quatre voies donc de la dopamine. Nigrostriée, la substance noire. Noire parce que on voit que la dopamine, c'est un signal paramagnétique qui est lié à ce qui va être contenu dans ces neurones et ça va être impliqué dans tout ce qui est mouvement moteur. Mésolimbique, je vous l'ai dit tout à l'heure, impliqué dans ce qui est l'expression de délire ou d'hallucination. Il va y avoir une dérégulation de cette voie spécifique dans la schizophrénie, chez les personnes qui souffrent d'une schizophrénie. Il y a la voie tubéro-infondibulaire avec la sécrétion de prolactine. La prolactine, comme le nom l'indique, est une hormone qui va pouvoir favoriser la sécrétion de lait chez la dame, mais aussi chez l'homme, quand il y a des effets secondaires liés à des bloqueurs de dopamine et qu'il y a une production trop élevée de prolactine par ce blocage de dopamine et ainsi des effets secondaires qui peuvent être un écoulement par les glandes qui produisent du lait au niveau mammaire. La quatrième voie étant la voie mésocorticale, qui va au niveau frontal et qui va être impliquée dans tout ce qui est attention, planification, vigilance. Cette voie va être impactée aussi par la prise de médicaments qui vont bloquer la dopamine. Donc, une personne qui prend un traitement neuroleptique, elle va avoir des effets secondaires, principalement liés aux actions sur les autres voies. Alors, il y a à la fois la voie frontale, avec une pathologie similaire à la dépression et similaire à des symptômes que nous avons vus tout à l'heure. Il va y avoir la voie nigrostriée avec un impact sur la motricité. Les personnes peuvent avoir des difficultés dans leur motricité. Et une voie tubéro-hypophysaire avec l'augmentation de prolactine et éventuellement des dysfonctionnements en termes de libido et de sécrétion liée en tout cas à l'augmentation de la prolactine et donc de sécrétion lactique également. Tout cela parce qu'un blocage de dopamine est ciblé dans la voie mésolimbique. Peu de spécificité donc à un traitement qui agit pourtant sur quatre voies. Les points communs de ces systèmes neuromodulateurs diffus, c'est que chaque système est constitué d'un petit nombre de neurones, quelques milliers. Les noyaux sont localisés dans le tronc, chaque neurone est très ramifié et les neurotransmetteurs sont libérés dans l'espace extracellulaire. Alors on parle de substances psychotropes pour désigner des substances qui sont naturelles ou artificielles, extérieures au corps. Elles agissent sur les neurotransmetteurs et ont des effets psychotropes. Vous connaissez les héliotropes qui bougent avec le soleil. Ici, psychotropes, c'est qui vont faire bouger quelque part le psychisme, notamment en altérant la conscience. Une substance agoniste va inhiber, une substance antagoniste va réduire la circulation, ça vous connaissez. Alors il y a un phénomène qui est important à connaître, c'est ce phénomène de tolérance. Le phénomène de tolérance, c'est la conséquence d'une stimulation chronique d'un circuit. Une réponse homéostatique va conduire un système à diminuer sa régulation, à down-réguler. Le système adapte son activité et fonctionne de façon anormalement basse. Il faut donc à un moment donné de plus en plus de drogue pour avoir l'effet désiré. Il y a donc un phénomène qu'on appelle de tolérance. Alors ça marche pour
beaucoup de choses, une forme d'adaptation. Ça marche pour la benzodiazépine, ça marche pour l'alcool, ça marche pour toute une série de substances. Ce phénomène de tolérance qui va signer une consommation chronique d'une substance.
Alors le cannabis, lui, le THC, va libérer plus de GABA, hein, mais in fine plus de dopamine. Et cette dopamine, elle va être liée à différentes manifestations. Alors pour parler un petit peu de ça, les manifestations les plus fréquentes, c'est un effet de dissociation qui est recherché habituellement. Les personnes qui vont consommer ces substances psychotropes, elles souhaitent avoir une dissociation, mais qui ne soit pas forcément un état psychotique permanent.
La difficulté est qu'elles ne savent pas si elles vont avoir un état de psychose permanent, et les études là sont extrêmement claires. C'est un certain Caspi qui a pu étudier le métabolisme de la catéchométhyltransférase, qui est cette enzyme qui va cataboliser la dopamine, en montrant que certains polymorphismes allaient être plus susceptibles d'augmenter de manière massive la dopamine au niveau de la fentanyl sans forcément une grande récupération de cette dopamine, et ainsi induire ce qu'on appelle un effet d'embrasement, qui est le winning effect, qui va lui conduire à une autonomisation de la symptomatologie. Ainsi, fait-on des tests génétiques de la catéchométhyltransférase à l'entrée des boîtes de nuit, des endroits où les jeunes gens ont du cannabis pendant un temps. Je ne pense pas. Est-ce que ce serait un plus grand effet ? Je pense que. Bien sûr, puisque les politiques de prévention, d'autorisation de l'interdiction ne tiennent pas compte que certaines personnes vont être extrêmement sensibles à l'exposition de ce genre de produit. Puisqu'il y a un effet qu'on appelle une interaction de gène-environnement, votre équipement génétique, s'il interagit avec une substance à laquelle vous êtes exposé dans le environnement ici, le THC, va développer une psychose à éviter. Est-ce que le THC induit une symptomatologie psychotique dans tous les cas ? Oui, dans tous les cas. La symptomatologie de dissociation qui est recherchée par le THC est une symptomatologie psychotique. Est-ce qu'elle est permanente dans tous les cas ? Non, elle n'est pas permanente dans tous les cas. Mais chez certains individus, une fois suffit. Qui seront-ils ? On ne le sait pas. Mais faut-il s'y exposer ? C'est tout l'enjeu et c'est toute la question. Après la notion de manque, la notion de tolérance, voici la notion de manque. Si on arrête une drogue chez un animal, une diminution de sécrétion de dopamine dans la cumbens, il y a un syndrome de sevrage, et on voit un symptôme, un phénomène de manque qui peut être psychique ou physique. Ce manque physique est souvent substitué par des molécules de type benzodiazépine pendant sevrage. Le manque psychique continue au-delà, en lien avec les conditionnements qui auront prévalu chez un individu particulier. Alors les neurotransmetteurs, il existe plusieurs types, on a vu. Alors il y a différentes parties du système nerveux central, on a dit les hormones, elles ont un fonctionnement un petit peu différent.
là où les hormones vont avoir un message général transmis via le sang, les neurotransmetteurs vont avoir une communication plus spécifique et transmise via le système nerveux. Donc ces deux types de communication sont toutes différents. Les hormones sont des substances chimiques contrôlées par le système nerveux circulant dans le sang. Elles régulent les émotions, les désirs, les fonctions corporelles. Ça, vous connaissez déjà. Ça, on a déjà vu. Une hormone, adrénaline aussi, mélatonine, considérée comme hormone. Différents types d'organes sécrétant des hormones, l'épiphyse, la mélatonine, l'hypothalamus, l'hypophyse, parathyroïde, thyroïde, thymus surrénal, estomac, pancréas, ovaire, testicules. Vous avez tous ces organes qui vont sécréter différents hormones. Alors venons-en à la structure même du système nerveux, qui n'est qu'un rappel, je pense, pour vous, que vous savez déjà très bien. Ici, on a le système nerveux central et périphérique, avec la moelle épinière et le cerveau du côté du système nerveux central, le tronc cérébral, le bulbe rachidien, protubérance cellulaire et système réticule activateur, le cervelet, les structures sous-corticales avec le corps calleux, l'hypothalamus, le thalamus, le système limbique, et puis le cortex avec les hémisphères, les lobes et les aires, que nous verrons un peu plus en détail. Dans le système nerveux périphérique, on va avoir le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Le système nerveux somatique va contrôler les muscles, le système nerveux autonome va contrôler les fonctions vitales et les réactions au stress. Il y a un effet de yin et de yang, quelque part, entre le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le sympathique stimulant l'organisme pour qu'il produise de l'énergie en réaction à une menace, et le parasympathique étant tout l'opposé pour arriver à un certain repos. Il y a une conservation d'énergie et un certain repos. Réception d'informations, intégration de l'information et action sont donc ces trois fonctions du système nerveux. Au niveau de la moelle épinière, vous aurez ce qu'on appelle les arcs réflexes. On en verra quelques-uns, dont un ici. Si vous touchez avec votre doigt un élément froid, non seulement l'information va aller jusqu'au cortex sensitif situé au niveau pariétal, mais également au cortex moteur, ensuite avec l'instruction de dire « retire ton doigt, c'est froid ». Ça marche aussi avec « retire ton doigt, c'est chaud ». Mais avant que cette instruction, qui nécessite un chemin plus long, conduise à une action, il y aura un retrait de par cet arc réflexe au niveau médulaire, donc de la moelle, pour pouvoir avoir une action la plus rapide possible. Alors il y a cette notion d'afférence et déférence. Afférence se retient facilement parce qu'il y a un A, et ça veut dire arrive vers le système nerveux central, et efférent, il y a un E comme dans s'éloigner. Même chose ici pour cet arc réflexe, le test au niveau des arcs réflexes, au niveau des tendons que l'on va faire avec un petit marteau. Alors, différentes fonctions du système nerveux sympathique et parasympathique. Stimulation d'un côté, mise au repos de l'autre, la dilatation des pupilles ou la contraction des pupilles, la diminution de la salivation ou l'augmentation de la salivation, l'augmentation de la fréquence cardiaque, la diminution de la fréquence cardiaque, la dilatation des poumons ou la constriction des poumons, la diminution de la digestion et l'élimination, l'augmentation de la digestion et l'élimination, l'augmentation de la transpiration ou la diminution de la transpiration. Vous voyez que c'est chaque fois des effets qui sont opposés, ici repris sur cette diacie de manière un peu différente. Les yeux, ça ressemble à quoi ça? Les glandes salivaires, oui. Les poumons, le cœur, l'estomac, le foie, la surrénale, la vessie et le pénis et les testicules. Et comme vous le voyez, l'éjaculation est sympathique et l'érection est parasympathique. Mais ça, tout le monde le savait déjà. Si si vous êtes, ou si un animal est dans une situation de stress, alors l'exemple que je prends d'habitude, c'est s'il y a est attaqué par cet autre animal féroce et que cet animal attaqué était en plein coït
avec un autre animal menacé. Que va-t-il se passer?
Va-t-il continuer son coït tranquillement ou pas?
Quelqu'un a-t-il une petite idée là-dessus?
Personne n'a d'idée? C'est une application de ce qu'on vient de voir. C'est un moment que l'on peut appeler un moment de stress. Il y a donc une éjaculation et plus d'érection. Ce qui fait dire aux tenants de la théorie évolutionniste que ça vise à préserver la transmission au moment de stress et non plus de continuer à pouvoir se reproduire autrement. Voici quelle serait la fonction. Est-ce que vous voulez une pause de quelques minutes avant qu'on continue avec l'anatomie du cerveau? Oui. 5 minutes de pause et puis on reprend. Ici, une coupe sagittale du cerveau. Vous connaissez bien l'anatomie du cerveau déjà ou pas? Il faut que je passe à travers. Oui? Vous connaissez bien? Non? Où j'en parle? Ok. Donc au centre, vous avez ce qu'on appelle le corps calleux, qui est fait de substances blanches et qui relie les deux hémisphères. Au devant, ici, vous avez le lobe que l'on appelle lobe frontal, facile. Et puis, on va arriver à la scissure de Rolando, qu'on verra un peu mieux sur une autre slide, et puis le lobe pariétal. Ici, on a quelque chose qui ressemble à un coin, qui s'appelle le cuneus, tout simplement, et qui est du lobe occipital. Ce qui ressemble ici à une fougère, c'est le cervelet. Ici, le tronc cérébral, la moelle épinière, le bulbe rachidien, ça ressemble à un bulbe, et puis le système réticulaire activateur ascendant, qui aide à filtrer les informations sensorielles, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ces régions sont bien sûr à connaître, ça fait partie, c'est de l'anatomie, donc c'est juste... une carte, quoi, comme si vous alliez visiter une ville. Il n'y a rien de bien compliqué à apprendre. Dans l'hypothalamus, il est responsable de la régulation des émotions, des pulsions, par exemple, la faim, la soif, la libido, l'agressivité. On reverra l'hypothalamus et différents noyaux de l'hypothalamus quand on verra la motivation, la faim, dans un chapitre vers la fin du cours. Pas du cours d'aujourd'hui, mais la fin de tout le cours. Les amygdales cérébrales, à ne pas confondre avec vos amygdales au niveau de votre gorge, c'est la partie du système limbique qui est associée à l'agressivité ou à la peur et qui va traiter l'information émotionnelle. Cortex cérébral, c'est une mince couche du cerveau responsable de la plupart des comportements complexes et des processus mentaux supérieurs. Corps calleux, j'en ai déjà parlé. Le thalamus, qui transmet les messages sensoriels du cortex, qui va agir comme un peu comme un hub, va recevoir l'information du cortex, l'envoyer vers d'autres parties du cortex, et faire en sorte qu'on puisse avoir une transmission d'informations avec un câblage qui repart vers un lieu central, un hub, quoi, et non pas devoir faire des câblages entre toutes les parties du cerveau. La protubérance annulaire, il vaut mieux la garder, puisqu'elle est associée à la respiration, au mouvement, à l'éveil, au sommeil et au rêve. Et sans protubérance, on ne sait plus respirer. Cervelet qui va contrôler la motricité fine, l'équilibre et certains processus perceptifs, cognitifs et même émotionnels. Là où on pensait autrefois que le cervelet était juste lié à des difficultés motrices, on sait maintenant qu'il est impliqué dans des phénomènes cognitifs et émotionnels. Le bulbe rachidien, qui est responsable aussi de la respiration, des battements cardiaques et d'autres fonctions vitales. Bien connaître donc à quoi ça sert. Les différents lobes, vous avez le lobe pariétal, le lobe frontal, le corps calleux, le lobe occipital, j'en ai parlé, vous avez bien l'hypophyse, le thalamus et l'hypothalamus en dessous du thalamus, le cervelet, la moelle épinière, vous voyez une autre représentation comme ça du cerveau, le lobe temporal, hein, derrière les tempes, et puis le cortex cérébral, on en a déjà parlé un petit peu. Alors, le nom de démence pugilistique vous dit-il quelque chose ? Est-ce que la notion de pugilat vous dit quelque chose ? Oui. Qu'est-ce qu'un pugilat ?
Un combat. Et donc, une démence pugilistique, une démence, un pugilat, avec un combat. Que sont en train de faire ces deux dames ? Je ne sais pas si c'est une dame.
C'est un combat avec des coups répétés sur la tête dont on sait qu'ils peuvent être liés à des dépôts de plaques amyloïdes et des troubles neurocognitifs à long terme. C'est valable pour tout sport
qui utilise la tête de manière physique. Pas jouer aux échecs. À moins que vous ayez un peu d'échecs. Ça, c'est d'autres sports que vous connaissez. Des traumatismes répétés, que ce soit au football, au breakdance,
basket, tout type de sport, peuvent conduire à des commotions régulières dont l'accumulation des chocs va entraîner des difficultés, parfois même jusqu'à des dizaines d'années, ici plus de 3 décades, plus de 30 ans après la commotion. Et ce qui est terrible quand on y pense en tant que scientifique,
c'est que non seulement la plupart qui font du sport sans avoir un métabase connu, on va aller chez les médecins pour se dire comment consommer sa peau, quel état suivre. Et puis il y a plein de gens qui banalisent en fait les chocs qui peuvent être
acquis au cours d'exercices sportifs en disant mais c'est normal de ne pas se sentir bien ou d'être un peu groggy après tomber ou avoir ceci ou cela. Mais tous ces chocs répétés vont et peuvent entraîner des difficultés. Alors ceci dit, il vaut mieux faire du sport que de fumer, bien évidemment. Donc ne vous arrêtez pas de faire du sport. On poursuit dans les notions importantes de la neurogénèse, c'est la maturation du système nerveux de l'embryon à l'âge adulte. Processus programmé génétiquement mais influencé ensuite par le milieu. La neuroplasticité, c'est l'aspect plastique du cerveau qui peut se transformer en contact entre autres avec l'environnement. S'effectue au fil d'apprentissage suite à des blessures. L'organisation, on voit ici l'organisation du cerveau dit tri-unique. Cerveau reptilien, limbique et cérébral, vous voyez directement que c'est une vue de l'esprit, hein, avec il y a une inversion ici, hein, entre cerveau reptilien et cortex cérébral. C'est cortex cérébral qui doit se trouver ici, et cerveau reptilien qui doit se trouver ici. Il y a une inversion ici, hein. c'est pas bien fait cette affaire. Dans ce cerveau trinique, c'est l'idée d'intégrer des fonctions différentes qui se seraient spécialisées au cours du développement d'un individu. Il y a des comportements qui vont être vitaux, boire, manger, dormir, se reproduire, et puis ça concerne le cerveau reptilien, le système limbique, lui, serait le siège des émotions et de la motivation, et le cortex cérébral, sur la dernière couche à s'être développé, et qui permettrait de distinguer l'être humain d'autres mammifères, par exemple, pour l'intégration d'informations sensorielles complexes, contrôle volontaire de la motricité, la planification, le raisonnement, la conscience, etc., etc. Différentes structures dans le cerveau reptilien, tronc cérébral et cervelet. On a déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Ici, vous avez une autre représentation qui est pas mal faite, d'un jeune homme chevelu. On voit des structures. Vous voyez bien, par exemple, ici, l'hippocampe, hein, avec le... l'amygdale ici au bout, hein. Notre représentation, hein, le noyau accumbens, hein, pour la récompense. Alors, on va mettre le noyau accumbens au niveau du corps genouillé, là, au niveau du... Ce n'est pas très, très bien fait, mais en tout cas, le noyau cumbens, c'est plus au centre. Ça vous donne des régions importantes pour le système nerveux. Système nerveux limbique. Limbique, limbe, veut dire bordure. C'est aussi appelé le cerveau animal, la structure commune avec d'autres mammifères, et des fonctions émotives de traitement des émotions et cognitives. Il comprend plusieurs structures. L'amygdale, responsable des émotions, peur, agressivité, l'amygdale est une structure qui va intégrer l'information émotionnelle et pouvoir délivrer un certain label d'émotions sur différentes manifestations. L'hippocampe, la formation des souvenirs, et il y a un dialogue hippocampo-cortical entre donc l'hippocampe situé au centre du cerveau et puis le cortex qui se passe entre autres pendant la nuit avec le sommeil lent, profond, qui est très important pour la mémorisation. D'où la suggestion populaire suggérant qu'il faut dormir dessus pour fixer l'information ou réfléchir encore. L'hypothalamus, c'est la régulation de la faim, la soif, l'horloge biologique, l'agressivité, l'appétit sexuel. On a déjà vu tout à l'heure le cumbens, thalamus, on a déjà vu tout ça. Le cortex, on a déjà vu ça aussi. Ici, une autre représentation, encore une fois, du fornix, de l'hippocampe et de l'amygdale au centre du cerveau. Le circuit de Papez, le circuit de la mémoire, en lien avec les émotions. Un stimulus émotionnel peut aller stimuler le thalamus, aller au niveau du cortex sensoriel, en particulier au niveau du cortex singulaire, qui va être en bordure du corps calleux et qui fait partie du cortex du système limbique, cortex frontal et puis jusqu'à l'arrière. Peut donner différentes sensations, et on a ce circuit entre le cortex singulaire, l'hippocampe pour la mémoire, l'hypothalamus pour les réponses motrices et le thalamus antérieur. Alors on sait guider, par exemple, ici, un gros rat, au travers de stimulations que l'on va faire à gauche ou à droite, en fonction de ce qu'on peut voir. Ils sont amusés à faire ce genre d'expérience. Par des êtres humains. Mais tout ça pour vous dire que la compréhension du cerveau est telle que on peut guider à gauche ou à droite en fonction des impulsions qui vont être données. Ici, reprenons les aires, le lobe frontal, on en a déjà parlé pas mal aujourd'hui, réception et coordination des messages provenant des autres lobes, contrôle moteur, production du langage articulé et fonction supérieure. Vous voyez dans le lobe frontal qui a l'air de Broca ici, la partie inférieure du lobe frontal qui contrôle la production du langage articulé et écrit. C'est la production du langage. La production. Donc si vous avez un accident vasculaire cérébral qui entame cette aire de Broca, alors il y aura des difficultés de production du langage. Si, par contre, on se trouve dans le lobe temporal et dans l'aire ici dite de Wernicke et qu'il y a un trouble, un AVC qui entame cette aire de Wernicke, il y aura une aphasie dite de compréhension. La compréhension va être compliquée. Compréhension, production. Le lobe temporal est aussi impliqué dans l'audition, avec cette partie ici qui est la circonvolution de Heschel, et qui va permettre de recueillir l'information auditive, donc très important à préserver bien sûr dans le cadre de cette audition, ce lobe temporal. Alors, vous avez au niveau de l'arrière, donc vous avez la scissure de Rolando, juste ici, qui sépare le cortex frontal du cortex pariétal, avec la partie ici qui est l'aire motrice et la partie ici qui est l'aire somesthésique. Le lobe pariétal reçoit les informations relatives à la pression, douleur, toucher, température, message sensoriel. Donc. L'aire visuelle, je vous ai dit tout à l'heure que ça ressemblait à un petit coin, dont, d'où le nom de cuneus. Et on a le cortex strié ou cortex visuel primaire ici. Lobe occipital, donc, vision et perception visuelle. C'est amusant ce petit stylet. Les quatre lobes et six aires du cerveau, ça j'en ai déjà parlé. Là j'en ai parlé. Alors là vous avez une représentation de l'homunculus de Penfield. Vous voyez ? Des grosses mains, une grosse tête et un tout petit kiki qui vous montre des représentations proportionnelles à quoi ? À la motricité au niveau du lobe frontal. Et à la sensorialité au niveau du lobe pariétal. Facile à retenir la différence entre les deux, puisque vous verrez qu'il y a peu de représentation pour la motricité de l'appareil génital, tandis qu'il y a une plus grande représentation pour la sensorialité de ce même appareil génital. Vous voyez que les proportions ne sont pas pareilles, entre ce qui doit bouger, les genoux, le tronc, la main, les doigts, hein, la langue, le visage, d'où la partie importante d'expression faciale qui va être prise, et puis là, la sensorialité. Homunculus voulant dire petit homme, et Penfield, on a parlé la fois dernière, je pense, hein, c'est cet électrophysiologiste qui a pu faire toute une série d'études lorsque les patients étaient opérés pour des crises d'épilepsie et qui a pu déterminer, en stimulant différentes régions cérébrales, quels en étaient le champ, en tout cas de stimulation. Hein, en stimulant telle région du cerveau, ça allait faire bouger telle partie du corps ou ça allait entraîner une sensation sur telle partie du corps. Vous voyez encore une fois ici le cortex frontal, le cortex pariétal, occipital, avec la scissure de Rolando, et puis la partie motrice et la partie somesthésique. Alors, ne pas oublier qu'il y a une décussation, l'information d'un côté arrive de l'autre côté, sauf en ce qui concerne le cervelet, il y a une double décussation, donc l'information reste du même côté. C'est une petite exception qui permet de faire des questions d'examen, quoi, tout simplement. La latéralisation cérébrale, c'est le fait que des fonctions soient d'un côté ou de l'autre. Le cerveau se divise en deux hémisphères, droit et gauche, reliés par le corps calleux, hein, qui est un ensemble d'axones, oui, mais il n'y a pas la même chose à gauche et à droite. Il y a un champ visuel droit plus à gauche, le champ visuel gauche plus à droite, le contrôle du côté droit du corps plus à gauche, le contrôle du côté gauche du corps plus à droite, puisqu'il y a cette décussation, c'est le nom. Des fonctions analytiques tendraient à considérer les notions des choses dans leurs éléments, les fonctions de synthèse tendraient à considérer les actions des choses dans leur ensemble. Puis il y a les fonctions verbales, parole, écriture, compréhension du langage. À gauche, fonctions non verbales, art, musique, manipulation des objets dans l'espace, expression des émotions, reconnaissance des expressions faciales. Ce qui veut dire que si nous revenons à notre affaire ici, s'il y a une lésion au niveau du cortex frontal gauche postérieure, nous allons avoir une aphasie de production. Mais si cette lésion se situe au niveau du lobe frontal, non plus au niveau du lobe frontal, mais au niveau du lobe temporal, à gauche, une aphasie de compréhension. Dans cette aphasie de production, si on se situe dans l'hémisphère droit,
dans la même région, et ce sont toutes les caractéristiques émotionnelles qui ne vont pas être produites, exprimées. il y aura ce qu'on appelle une A intrinsèque prosodie, la prosodie est vraiment ce, cet aspect mélodieux dans la voix
quand on parle et empreint de quelque émotion. Donc ce n'est pas pour autant que l'on voit une latéralisation gauche-droite qu'il n'y a pas de fonction langagière au niveau de la droite du cerveau,
mais ces fonctions sont relativement différentes. Émotionnelles, avec cet aspect émotionnel pour la production, ce qui concerne l'air de Europia, et puis pour la compréhension, ce qui concerne l'air
de Wernicke. Alors, il faut bien sûr directement balayer les légendes urbaines qui consisteraient à signaler qu'on n'utiliserait qu'une partie de son cerveau,
plus du cerveau gauche, plus du cerveau droit, ou toutes des âneries dans ce genre. Ça n'existe pas. Vous utilisez tout votre cerveau en permanence. Si vous n'utilisiez qu'une seule partie de votre cerveau, ça se saurait, et puis vous développeriez des compétences extraordinaires.
Il y a des films comme ça, mais c'est pas la réalité, hein. Ça va, c'est juste de la fiction, ça. Alors, au niveau des aspects biologiques, si vous vous souvenez, aujourd'hui, on a vu Phineas Gage, son histoire, son aventure, le cortex frontal, comment est-ce que son histoire vient mettre de l'eau au moulin d'un débat entre les humanistes, force vitale, et puis les localisationnistes, la fonction spécifique, pour arriver aux fonctions du cortex frontal, et puis surtout, c'est comment est-ce que les manifestations psychologiques sont sous-tendues par la biologie. On a vu que le cerveau était particulièrement important là-dedans, et qu'il ne fallait pas méconnaître l'anatomie du cerveau pour pouvoir en dériver des symptômes psychiques avec d'éventuelles causes physique, somatique, et que c'est le rôle du médecin dans son diagnostic différentiel de pouvoir envisager des causes physiques alternatives à des explications physiques, psychiques simples.
Par exemple, un trouble du comportement alimentaire est peut-être le problème, et il ne pourrait pas psychologiser à outrance une situation, puisque quand on veut psychologiser, on trouve toujours bien quelque chose à psychologiser,
alors qu'il y a peut-être une nécessité d'intervention. Donc, des examens préliminaires doivent être réalisés afin d'exclure des troubles physiques. Au-delà de cette précaution nécessaire qui va être réalisée par le médecin, c'est rappeler que toute cette dimension psychique se reflète dans la matière et dans le cerveau, au travers des neurotransmetteurs, au travers des hormones, mais également au travers des gènes. Je vais parler de la catéchométhyltransférase. Vous avez ici une représentation de la cellule, des chromosomes et de l'ADN. Et on sait qu'il va y avoir des différences d'expression entre des individus en fonction de leur patrimoine génétique et de ce à quoi ils sont exposés, y compris in utero. Ces études qui permettent d'étudier les comportements, le caractère, toute une série d'aspects d'expression psychique en lien avec la biologie concernent aussi l'hérédité. On peut étudier des jumeaux, quel va être leur devenir, vivent-ils dans la même famille, peut-on distinguer l'impact d'une famille versus l'impact des gènes, si deux individus jumeaux sont placés dans des familles différentes, vont-elles avoir des devenirs différents? Ces questions peuvent être posées. Il y a des études de jumeaux qui tentent de répondre à ça. L'hérédité familiale, les enfants adoptifs, des anomalies génétiques, autant de points d'intérêt qui permettent d'essayer de dénouer des questions importantes en matière d'émotion, de comportement, de cognition, en lien avec la biologie. Alors la génétique, attention, parce que les caractères génétiques ne sont pas entièrement déterminés. Ils peuvent l'être partiellement. L'estimation relative à l'héritabilité ne s'applique pas aux individus. Réfléchir sur une population, ce n'est pas la même chose que de réfléchir sur un individu. Les gènes et l'environnement sont inséparables. Je vous donnais un exemple tout à l'heure d'interaction gène-environnement avec l'étude de Caspi et l'altération du métabolisme de la catéchométhyltransférase sur le métabolisme de la dopamine qui est relarguée lorsque vous fumez ou lorsqu'un individu fume du cannabis avec un relargage de THC. Ça marche aussi avec la cocaïne ou avec d'autres substances qui libèrent la dopamine, bien évidemment. Mais on ne sait pas séparer complètement les gènes et l'environnement, même s'il est important de l'étudier. On ne sait pas considérer un individu comme totalement séparé de son environnement. Alors, il paraît que c'est héritable. À faire, si vous voulez avoir des certitudes sur votre filiation. Alors, toute une série de tâches qui seraient favorisées chez les dames et chez les hommes avec des capacités. Attention. La culture joue ici un rôle extrêmement important dans la mesure où les petites filles sont parfois amenées à avoir certaines activités qui ne sont pas forcément les mêmes pour les garçons. Tout dépend si l'éducation est genrée, comme elle est dans la plupart des cas. Ainsi, la vitesse de perception, les objets déplacés, la fluidité verbale, les dextérités manuelles, l'arithmétique, ce serait très facile pour les dames. Et pour les hommes, le déplacement des objets dans l'espace, autre formule. Lancement projectile en direction d'une cible, bon ça on peut le voir dans l'actualité. Décomposition d'images, raisonnement mathématique, on voit ici que ce serait une activité préférentielle chez les dames. Mais encore une fois, attention, à quoi est exposé un individu en termes d'apprentissage dès son plus jeune âge qui va conditionner ce qu'il va pouvoir montrer et développer, va être ici crucial. Alors, on va entamer le chapitre 3 sur la sensation et la perception. Vous sentez d'attaque ? Ouais, c'est parti. C'est un rappel.
When I saw Helen Sellers first, she was 6 years and 8 months old. She had been blind and deaf and mute since her 19th month as a result of an illness. She had no way of communicating with those around her except a few imitative signs that she had made for herself, a push, mend, load, pull, mend, come, and so on. She had observed that we did not use the hand when we were talking to each other. And I let her see, by putting her hand on my face, how we talked with our mouths. She felt the vibration of the spoken word. Instantly, she felt, I want to talk with my mouth. That seemed impossible. But after experimenting for a time, we found that placing her hand in this position, the thumb resting on the throat, right at the balance, the first finger on the wrist, the second on the nose, we found that she could feel the vibration of spoken words. For instance, the throat, she feels the G, the high G, the. And on the lips, she feels and the K sound. On the lips, she feels the B, and the. And with the second finger on the nose, it's the nasal sound, The first word she learned to articulate was the little word if. With the hand in this position, I made the vowel if. She said if.
Regardez bien comment elle met ses doigts là.
Then I made the P. She feels it after her seventh lesson, she was able to speak the sentence word by word. I am nam.
Je ne suis plus muette maintenant, après cette leçon. C'est incroyable. Ça, c'est l'histoire d'Hélène Keller. Hélène Keller, et puis son accompagnante qui était extrêmement patiente, Anne Sullivan. Alors, Hélène Keller, elle était sourde et aveugle. Parce qu'à l'âge de 19 mois, elle a contracté une fièvre, elle a perdu la vue, l'ouïe, elle était isolée du monde. Et elle a développé au fur et à mesure différentes capacités de perception, c'est-à-dire en développant les autres sens. Et c'est progressivement que cette Anne Sullivan a pu aider cette Hélène Keller à percevoir les différentes lettres. Alors avant ça, naturellement, il n'y a pas de braille, il n'y a pas de compréhension par rapport à cet isolement et ces deux mondes séparés. Donc il s'agit ici, quelque part, dans cet apprentissage de la sensation, de la perception, de se rendre compte que
bien distinguer ce qui est la sensation, l'impact d'une stimulation externe sur un récepteur et l'interprétation, la perception ensuite de cette stimulation qui va être faite par cet individu.
Alors Hélène Keller nous dit ceci: par le toucher, je découvre le visage de mes amis. Il fallait que... C'était pas en temps de Covid, quoi. Il pouvait toucher tout le monde. L'infinie variété des lignes droites ou courbes, toutes les surfaces, l'exubérance de la terre, les formes délicates des fleurs. Il fallait qu'elles soient solides déjà aussi. Hein. Les formes nobles des arbres et la puissance des vents. En plus des objets, des surfaces et des changements atmosphériques, je perçois d'innombrables vibrations. Le toucher m'apprend que le bruit des pas varie selon l'âge, le sexe et les manières du marcheur. Lorsqu'un charpentier travaille dans la maison ou dans la grange, à côté, je sais, selon que je capte des vibrations obliques oscillantes et dentelées ou des secousses éclatantes répétées qu'il manie la scie ou le marteau. Bon, voilà. Sensation donc, processus physiologique de saisie, de transmission au cerveau de la stimulation provenant de l'environnement, stimulation, événement de l'environnement que captent les organes des sens. La perception, c'est le processus psychologique de sélection, d'organisation et d'interprétation de la sensation. Donc deux événements, deux moments différents, sensation et perception. Alors, il y a un traitement ascendant. Traitement de l'information sensorielle depuis l'environnement jusqu'au cerveau. Bon, on l'a vu dans le système réticulé activateur ascendant qui va comprendre deux tâches, la captation et la transduction de cette information. Il y a un traitement descendant, c'est l'ensemble des influences psychologiques sur nos perceptions, les attentes et l'apprentissage. Si vous êtes préparé à voir
certaines manières, certaines formes, certaines couleurs, vous allez pouvoir la voir. Cette préparation, ce phénomène top-down, du haut vers le bas, c'est la préparation par
votre système fronto-pariétal attentionnel, la préparation de ce qui va se passer autour de vous et la limitation des possible qui s'offre à vous en termes de perception. Vous mettez déjà du sens avant même de réfléchir à ce que vous voyez. Ce qu'on fait toujours. Si on voit espèce d'objet long dans une forêt pendant qu'on est en train de marcher, on se dit c'est peut-être un serpent. On ne se dit pas c'est peut-être un tuyau d'aspirateur. Parce que l'endroit n'est pas forcément bien choisi. pour le tuyau d'aspirateur. Sélection, organisation, interprétation donc des sensations dans cette perception. Alors vous connaissez le cerveau de tout à l'heure avec les muscles dans la partie postérieure du cortex frontal, la partie antérieure du cortex pariétal, derrière la tissu de Rolando, la partie somesthésique, la circonvolution de Heschel, supérieure au niveau temporal, et puis la vision. Donc, les sensations, elles sont quand même ici, et puis là, la motricité est là, mais on est les aires sensitives du cortex cortex cérébral, c'est juste là que ça se passe. Différents sens cognitifs, vision, audition, sens chimique, goût, odoral, toucher, sens cutané, équilibre, kinesthésie. Et à chaque fois, une stimulation, une captation, une transduction, un traitement cérébral et des caractéristiques psychologiques. La vision, la stimulation, c'est les photons lumineux, la lumière. La captation, ce sont les yeux, les rétines, et les cônes et les bâtonnets qui vont transduire cette information. Le cortex occipital va être, lui, structuré en régions V1, V2, V3, V4, V5, MT, V5, entre autres, qui vont toutes structurer l'information visuelle. Et puis, les caractéristiques psychologiques, la vision colorée en trois dimensions et les fonctions symboliques. Nous verrons ça un peu plus en détail. L'audition, vibration, l'oreille externe, les cils qu'il faut vous protéger quand vous allez à des fêtes en mettant des boules qui est, bien évidemment. Cortex temporal et aire d'association. Au niveau du traitement cérébral, la perception de la musique et du langage, l'odorat et le goût, odeur et saveur. Le nez et la langue, et vous savez, quand on a le nez bouché, souvent on goûte moins bien, tellement les deux fonctions sont fort liées. Neurones olfactives, papilles gustatives, vaste connexion dans le système limbique pour les deux, ces deux sens chimiques liés aux émotions, les saveurs ou odeurs. Ok. Sens cutané, équilibre, kinesthésie. Vous aurez différents niveau de stimulation, de captation, de transduction, de traitement cérébral et différentes caractéristiques psychologiques. Alors, il y a des seuils absolus. Donc, vous pourriez voir la flamme d'une chandelle à une distance de 48 km par une nuit noire. Alors, comme rarement la nuit est noire, c'est toujours bien quelqu'un pour éclairer une lampe. Voilà. Ce seuil doit être vu à la baisse, probablement. Louis, c'est le tic-tac d'une montre à une distance de 6 mètres. Ça peut être très gênant. Le goût, c'est une cuillère à thé de sucre dissoute dans 7,5 litres d'eau. L'odorat, une goutte de parfum répartie dans un appartement de 6 pièces. Il ne faut pas en consommer beaucoup, du coup. Ça peut vite devenir indisposant. Ou ça peut même être économique. Hein. Ça peut être un argument aussi pour ne pas offrir trop souvent du parfum. Ceci. Toucher, pression exercée sur la peau. Donc l'aile d'une abeille tombant sur votre joue d'une hauteur d'environ 1 cm. Habituellement, on se bouge avant, donc expérience pas forcément à faire. Alors, quand vous voyez ceci, regardez un peu bien l'image, là, pas en grand, mais est-ce que ça vous fait mal dans le dos, là? Non? Tout le monde s'en fout? Ouais. Non, pas beaucoup de théorie de l'esprit. Hein, là, c'est pour juste introduire la question de l'habituation. De l'habituation qui va venir. Comment est-ce qu'on peut avoir une habituation ou une adaptation sensorielle qui ressemble à la tolérance de tout à l'heure, si ce n'est que la tolérance était pour l'administration de substances psychotropes, et ici l'habituation, ça va être pour des sensations physiques. Mais c'est un peu la même chose. Alors l'adaptation sensorielle, c'est le mécanisme sensoriel par lequel les organes de certains sens cessent de réagir aux stimulations constantes. L'odorat s'adapte rapidement à l'odeur de notre parfum et du parfum des autres aussi. C'est pour ça qu'au bout d'un temps, on ne les sent plus. Sauf si l'odeur est totalement désagréable. Ça, les personnes qui vont visiter d'autres personnes en équipe mobile rentrent parfois dans des domiciles où ça sent extrêmement fort le chat, par exemple. Les déjections de chat, ce genre de trucs. Les personnes ne sentent plus ça. Mais c'est tellement incommodant que il faut un certain temps pour avoir une habituation. Et puis, comme vous savez que vous n'allez pas être là longtemps, habituellement, vous ne vous habituez pas, parce que vous ne l'avez pas choisi. L'adaptation de la vision est contrecarrée par des microsaccades, bien sûr. Si, là, ce sera un truc top, notamment.
si vous n'avez pas le microsaccade, les mouvements d'appel, le microsaccade de vos yeux, vous pourriez regarder quelqu'un, et plus vous regardez, moins vous le voyez. Puisqu'il y aurait une activation. Et la stimulation des photons sur la rétine, au même endroit, conduirait à une diminution de leur stimulation, et donc à une disparition de l'image. Ce qui peut être problématique, ben, si on supprime ces microsaccades et qu'on empêche la personne de bouger la tête, ben, il y a alors à ce moment-là une diminution de la stimulation. C'est la raison pour laquelle, de manière extrêmement pratique, les lumières qui clignotent vont être mieux perçues, puisque comme ce n'est pas en continu, vous n'avez pas ce phénomène d'adaptation sensorielle. Donc si vous vous reconvertissez et que vous allez dans une ambulance, camion-pompier, camion-police, les lumières clignotent à chaque fois. Ah ben, c'est fait exprès. On s'adapte très peu à la douleur. Ben oui, la douleur, à partir d'un certain seuil, on ne s'y adapte pas du tout. Pourquoi ? Parce que ça rentre en concurrence avec l'intégrité physique de l'individu et il faut que l'individu se protège. Tiens, tiens donc. Qu'est-ce qui se passe là ? Sélection de l'information, l'habituation toujours, tendance perceptive à ne plus prêter attention à des sensations superflues. Vous ne sentez plus, logiquement, la sensation de votre séant sur le siège. La sensation est toujours présente, mais on cesse de la traiter. Elle concerne surtout les stimulus visuels et auditifs. Alors qu'on discute, on ne prête pas attention à une musique d'ambiance au restaurant, par exemple. Sauf si elle vous intéresse particulièrement ou à l'inverse, vous n'aimez absolument pas. Alors pour la vision, vous voyez qu'on peut voir dans un spectre de lumière visible qui est relativement étroit par rapport à tous les spectres de la lumière. Il y a des amplitudes et longueurs d'ondes différentes qui vont nous informer sur différents paramètres de la luminosité. Les ondes lumineuses vont être transduites par les cônes et les bâtonnets. Les cônes pour les couleurs, les bâtonnets pour ce qui n'est pas des couleurs, perception des formes. Certaines personnes ont un déficit des cônes qui entraîne une cécité des couleurs. On appelle ça pas daltonisme, c'est le nom un petit peu ancien, mais c'est une dyschromatopsie. Opsie, voir, chroma les couleurs, dys altérée. Alors en plus de ça, vous avez des cellules non cônes, non bâtonnées, des cellules ganglionnaires qui sont importantes. Pourquoi ? Pour la réception de la lumière et pour la stimulation de la mélatonine par l'hypothalamus. Ainsi, même si vous ne voyez plus, c'est important d'avoir cette stimulation photonique pour ces cellules, non cônes, non bâtonnées et ganglionnaires. Les images, on a déjà parlé, les cellules primaires, lobe occipital. Ok. Alors ici, vous avez le chemin de la lumière sur la rétine. Alors bien sûr, là où il y a une réentrée des axones, c'est la tâche aveugle. Il ne peut pas y avoir en même temps un récepteur et puis une réentrée d'axone. L'audition, c'est un peu le même exercice. Sur les vibrations qui ont une certaine amplitude, un certain cycle. Alors là, tension aux expositions prolongées et dangereuses. Hein, il faut mieux rester dans des stimulations relativement faibles. Pourquoi ? Parce que les cellules ciliées internes ne se renouvellent pas. Ici, on va voir le marteau, l'enclume et l'étrier. Et puis, la transduction, vous avez les canaux semi-circulaires qui sont importants pour l'équilibre, jusque dans la cochlée, avec une certaine tonotopie. Et puis, vous allez avoir également des sons qui vont être représentés au niveau du cortex temporal. Et en particulier, on l'a vu tout à l'heure, la région primaire, qui est le gyrus de Heschel.
On peut déterminer la source sonore parce qu'habituellement le son arrive plus rapidement d'un côté que de l'autre. Et puis vos cellules ciliées externes et internes peuvent être endommagées sous l'effet de ce genre d'activité nocturne. L'odorat, réaction chimique, l'odorat est une molécule. Alors, les cellules de la muqueuse olfactive vont effectuer la transduction afin que les odeurs soient analysées dans le bulbe olfactif. C'est fortement relié au système limbique, d'où l'impact émotionnel fort en lien avec les odeurs. Et voyez ici la lame criblée de l'ethmoïde, vous avez eu ça déjà le cours d'anatomie, oui ? L'ethmoïde, vous avez déjà vu ça. La lame criblée de l'ethmoïde, vous avez déjà vu aussi ça. Avec le passage de ces axones qui, si vous faites un mouvement de cisaillement extrêmement rapide, vont être coupés, d'où une anosmie qui peut être présente en cas de cisaillement trop rapide, par exemple dans un accident de moto. Papilles gustatives, goût correspond à la stimulation des papilles gustatives, les saveurs incluent l'odeur et les aliments. Différentes régions, acides, sucrés, salés, amers et umami, c'est pour la satisfaction gustative, hein, une autre attribut. Ici, vous voyez les papilles gustatives renouvelées chez les enfants régulièrement, ce qui veut dire que quand un enfant n'aime pas quelque chose, vous lui représentez 7 jours après, et ainsi de suite, tout simplement. Ça, c'est une application pratique de votre cours de physiologie. Le toucher, pression, température, douleur, les capteurs sont présents en concentration variable sur la peau. Alors, il y a la théorie de la porte ou le portillon de la douleur, avec différentes molécules qui peuvent ouvrir cette porte et d'autres la fermer. Nous verrons peut-être ça calmement dans une semaine. Je vous souhaite une bonne semaine.